Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Le Madoff de Maine-et-Loire, c'est un article dans le journal Le Monde qui a attiré mon attention. Il est signé Thomas Santouran et cet article explique comment une cinquantaine de clients d'un gestionnaire de patrimoine, officiant donc dans le Maine-et-Loire, ont été délestés de plusieurs millions d'euros en lieu et place des rendements importants qui leur étaient promis. Ces crédules ont tout simplement été victimes d'un très classique schème de Ponzi, l'occasion de se pencher sur l'œuvre de ce Charles Ponzi. C'est d'ailleurs le super fail de la semaine.
11 décembre 2008, le grand public découvre Bernard Madoff. C'est rare, certains photographes révoltés par le scandale vont jusqu'à le bousculer. Madoff vient d'avouer au FBI. Il n'a jamais investi, mais détourné l'argent de ses clients. Subitement, il incarne tout ce que la finance peut engendrer de pire.
Charles Ponzi, qui a donné donc son nom au système frauduleux que vous connaissez, est un immigré italien qui est arrivé en 1903 aux États-Unis avec l'ambition de faire fortune. On écoute nous le présenter Thomas Messias, professeur de mathématiques et journaliste.
Ponzi, c'est quelqu'un qui était tout de suite très ambitieux, qui voulait vivre le rêve américain à fond. Le problème déjà, c'est qu'il parlait un anglais très rudimentaire. Et donc il a commencé à faire la plonge dans un restaurant et puis il s'est dit que le rêve américain n'était peut-être pas si doré que ça et il a filé au Canada en 1907. Et c'est là qu'il rencontre un homme qui va être clé dans son existence, qui s'appelle Luigi Zarossi, qui est un immigré italien lui aussi, qui a fait fortune dans le commerce de cigares. Mais Luigi Zarossi s'est pas arrêté là, il a aussi créé sa propre banque, qui porte d'ailleurs son nom, la Banca Zarossi, et qui propose des prêts, mais à des taux d'intérêt qui sont assez, voire très élevés, puisqu'on a des taux d'intérêt, par exemple, de 6%, qui sont accordés aux personnes qui ont besoin d'argent, là où les autres banques, à l'époque, proposent généralement des taux d'intérêt plutôt aux alentours de 2%. Et donc, Ponzi s'intéresse à ce que fait Zarossi, mais il s'y intéresse de façon vraiment déjà... Il est vraiment très intéressé financièrement parlant. On n'est pas en train de parler d'une amitié qui se noue, puisqu'en fait, Ponzi se présente même sous une fausse identité auprès de Zarossi pour pouvoir un peu s'infiltrer et essayer de comprendre quelles sont les combines derrière cette fameuse banque qui a l'air de lui rapporter tant d'argent. Il démarre comme caissier, il monte en grade, et puis il se rapproche de plus en plus du patron, et il commence à comprendre comment marche le système Zarossi. Bah, c'est justement déjà un système pyramidal, puisqu'en fait, ce que fait Luigi Zarossi, c'est que il utilise l'argent qui vient d'être placé par ses nouveaux clients pour pouvoir rémunérer les clients plus anciens. Et donc à chaque étape, dès qu'il a des clients qui veulent retirer leur argent, eh bien il est obligé d'aller recruter des nouveaux clients dont l'argent va servir, et donc ça marche comme ça par étapes. Et on comprend d'autant plus maintenant qu'on a étudié ces systèmes que ce n'est pas des systèmes qui sont viables et qu'il y a forcément un moment où ça coince et où il y aura des gens qui vont être floués, qui vont risquer de ne pas récupérer du tout leur mise.
Ponzi débute son initiation à Montréal auprès de Luigi Zarossi, lequel finit par s'enfuir au Mexique lorsqu'on commence à lui demander des comptes. Ponzi, lui, retourne à Boston. Il va mettre en place la célèbre fraude qui porte son nom. Il découvre en 1920 qu'il existe un moyen extrêmement simple de faire de l'argent grâce à la poste. Un moyen qui repose sur ce que l'on appelait alors les coupons réponses internationaux. Mais alors là, Juliette, il va falloir que vous nous expliquiez de quoi il s'agit.
Créé en 1906 pour faciliter les échanges internationaux, ces timbres spéciaux permettent à l'expéditeur d'une lettre destinée à l'étranger de payer d'avance l'affranchissement de la lettre réponse à son destinataire. Pour comprendre l'intérêt de Charles Ponzi pour ses coupons internationaux, il faut savoir que leur valeur dépend de l'endroit où ceux-ci sont achetés. Or, en 1920, les devises des pays européens sont massivement dévaluées après la Première Guerre mondiale et l'organisation qui encadrait la vente de ces coupons n'ajuste pas les prix à la situation économique. Et c'est là que Charles Ponzi perçoit l'aubaine financière. Pour vous donner une idée, comme l'explique le journaliste James Snead dans le podcast Planet Money, aux États-Unis, un dollar américain permettait d'acheter 20 coupons. Mais en Italie, avec la dévaluation de la livre italienne, un dollar américain permettait d'acheter beaucoup plus de ces coupons. Ainsi, Charles Ponzi a découvert qu'il pouvait gagner 2,30 $ pour chaque dollar de coupons qu'il achetait en Italie en les revendant aux États-Unis. Et ceci de manière parfaitement légale.
Cette histoire de coupon-réponse est une très bonne idée, mais Ponzi n'a pas pensé à tous les détails, par exemple, comment concrètement échanger ses coupons contre de l'argent aux États-Unis. Charles Ponzi, un peu négligent, décide qu'il va régler ses détails. Plus tard, il crée son entreprise et il promet un taux de 50% de retour sur investissement à ses premiers clients. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout réglé les détails évoqués précédemment. Et alors, les coupons-réponses ne génèrent pas vraiment les rendements espérés. Et c'est ainsi qu'il est obligé d'inventer, peut-être à l'insu de son plein gré, le système de Ponzi. On écoute à ce sujet Thomas Messias.
Bien, en fait, Ponzi propose à ses clients plusieurs options, mais la principale, c'est de leur faire doubler leur mise, leur investissement en 90 jours, donc en 3 mois. Et donc, ça veut dire que rien que sur une année, on va multiplier la somme par 2, on va dire 4 fois de suite. Donc, on va la multiplier par 2 puissance 4, c'est-à-dire par 16. Donc, en fait, Ponzi propose finalement à des clients qui laisseraient leur argent pendant un an, dans sa banque, on va dire, de multiplier leur mise par 16, ce qui est quand même, on se l'accordera, assez énorme. Le problème, c'est que Ponzi, pour rembourser les clients et pour leur donner 16 fois leur mise, il va faire la chose suivante, c'est qu'il va devoir convaincre de nouveaux clients d'investir également chez lui. Et c'est grâce à ces investissements-là qu'il va pouvoir rendre à ses clients initiaux 16 fois leur mise. Et là, je ne parle que sur un an, mais en fait, le principe de ces puissances de deux, c'est qu'on va avoir une croissance qui va être exponentielle et que donc quelqu'un qui laisserait une somme à un instant T et qui souhaiterait récupérer ses investissements au bout de 1, 2, 3, 10 ans, ça reviendrait à demander des sommes colossales. On a calculé, par exemple, et je calcule dans mon article, qu'au bout de 6 mois, Charles Ponzi doit trouver 200 nouveaux investisseurs. Au bout de 9 mois, il doit en trouver 400. Et puis, si on continue sur ce principe, eh bien, au bout de 3 ans, il doit en trouver 25 550 pour pouvoir rembourser au total, en imaginant que tout le monde veut récupérer son argent au même moment, une somme supérieure à 20 millions de dollars. En fait, on a une croissance exponentielle. Et donc, plus on avance, plus Ponzi doit trouver de nouveaux investisseurs, plus il doit les trouver rapidement, plus c'est compliqué d'en trouver parce que il doit en trouver parmi des gens qui n'ont pas eu encore l'envie d'investir chez lui. Et donc, rapidement, il arrive au bout de ses possibilités.
Mon oncle Don Bero, il veut mettre de l'argent chez toi. 2 000 $.
Oh. Ça reste dans la famille.
Et mon cousin Don Bero, il veut mettre de l'argent chez toi. 2 000 $ aussi.
Ça reste dans la famille.
Vous venez récupérer vos breloques.
Les bijoux, oui.
Et le gousset.
La montre aussi, elle ira bien avec le costume.
Vous permettez? Ah, c'est bien cousu.
Mon Rosenberg. Un petit investissement chez moi, oui, non?
Le costume et les ailes et guides. Selon toute vraisemblance, ça marche bien pour vous. Seulement nous, vous savez, la vraisemblance.
Alors, le système de Ponzi fonctionne extrêmement bien, surtout que c'était le premier, en tout cas le premier à cette échelle. 20 000 investisseurs arrivent dans les premiers mois, puis 40 000 personnes décident d'investir. Bref, la vie de Ponzi change complètement. Il va s'acheter un château, une limousine, il fait la une des journaux. Et puis après, évidemment, tout bascule très vite. On écoute à ce sujet Thomas Messias.
Tout commence lorsqu'un investisseur qui s'appelle Joseph Daniels, un investisseur américain, le poursuit en justice parce que Ponzi, en plus de son système pyramidal, multiplie les promesses qu'il ne peut pas tenir. Et il avait promis à Joseph Daniels de lui verser 50% des profits liés à sa société en échange d'investissements conséquents. Et évidemment, rapidement, il a été clair que Ponzi ne pourrait pas fournir à Daniel 50% des profits de sa société. Et donc, il y a eu une attaque en justice devant la cour du Massachusetts. Et la cour du Massachusetts a eu cette première décision. C'est qu'elle a demandé à Ponzi de mettre toutes ses activités en pause le temps de mener l'enquête, le temps qu'un dossier judiciaire soit constitué. Or, Ponzi, à cette époque, il est vraiment dans une course contre la montre, puisqu'encore une fois, dans chaque intervalle de temps successif, il doit trouver toujours plus de nouveaux investisseurs, toujours plus d'argent pour pouvoir rembourser les précédents. Et il a déjà le couteau sous la gorge et il ne peut vraiment pas se permettre d'arrêter totalement ses activités. Et donc c'est là qu'effectivement, lui ne choisit de ne pas fuir. Il accepte de ne plus accepter d'investissement, mais il continue à utiliser des fonds de roulement, à essayer de trouver de l'argent à droite à gauche pour pouvoir colmater les brèches. Mais c'est là que la supercherie est quand même mise en lumière, puisqu'il a vraiment de nombreux investisseurs qui veulent récupérer leur mise en même temps parce que les soucis judiciaires de Ponzi les inquiètent beaucoup et ils se rendent compte rapidement qu'ils ne vont pas pouvoir être remboursés ou qu'en tout cas ils ne pourront pas être remboursés à hauteur de ce qu'ils espéraient.
Frank Pope, inspecteur des finances. On vous a à l'œil. Je protège les petites gens contre les usuriers qui pratiquent des taux d'intérêt pas raisonnables.
Ah, mais moi je ne prête pas. C'est à moi qu'on prête. Vous allez me protéger alors ?
N'importe comment, on vous a à l'œil.
C'est ainsi que le système de Ponzi est découvert. Les autorités constatent qu'il doit plus de 7 millions de dollars, mais il n'en possède plus que 4 millions. Il se rend en août 1920, plaide coupable et passera des années derrière les barreaux pour diverses accusations. Il meurt finalement au Brésil avec 75 dollars à son actif, un butin assez maigre qui sert à payer son enterrement. Mais le système auquel il a donné son nom, lui, va largement lui survivre.
Eh bien, en fait, les pyramides de Ponzi, ça continue à se diffuser. Hein. On a Bernard Madoff qui s'est fait tristement connaître pour un système qui était basé sur ce système. Madoff qui a été condamné à 150 ans de prison en 2009. Et on estime que son escroquerie générale porte sur une somme de 65 milliards de dollars, puisqu'il s'est en plus attaqué à des personnes extrêmement riches, dont des personnes... des acteurs et des réalisateurs hollywoodiens. Et donc, on voit bien qu'en fait, c'est un système qui continue à attirer les gens les plus avides de fortune, les gens les plus malfaisants, puisqu'on sait bien qu'encore une fois, ça finit toujours mal, mais certains le poursuivent. Et Madoff, qui a quand même été condamné, alors qu'il était déjà assez âgé, a failli réussir à passer toute sa vie sans finalement être inquiété. Donc, il avait quasiment réussi son pari, c'est-à-dire le pari d'une vie... fortuné, aisé parmi les puissants. Et bon, finalement, sa chute a quand même eu lieu. Et puis on voit que si on parcourt un peu les réseaux sociaux, certains forums, on voit que ce sont encore des offres qui sont proposées, qui sont souvent au contraire proposées aux gens les plus faibles, des gens qui sont peu fortunés. On leur demande, en échange d'un petit investissement de leur part, on leur demande ensuite de trouver d'autres personnes à intégrer à un projet qui elles-mêmes vont devoir investir un tout petit peu et trouver d'autres gens. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on met complètement sur la paille des gens qui n'ont déjà pas beaucoup de ressources. Donc, en fait, cette pyramide de Ponzi, elle fait du mal aux très riches, mais elle fait aussi énormément de mal à ceux qui le sont moins.
La morale de cette histoire, c'est que le nom de Ponzi est aujourd'hui internationalement célèbre et son système utilisé partout dans le monde, y compris dans le Maine-et-Loire, comme je vous ai expliqué en introduction, puisque dans le Maine-et-Loire, une escroquerie a utilisé le schème de Ponzi, mais comme elle ne s'appelait pas schème de Ponzi, eh bien beaucoup de crédules se sont encore fait berner. Superfell a été dévasté à la production par Juliette Devaux et il a été ruiné à la réalisation par Mydia Portis-Guérin et Vivien Demeyer.
Superfell.